tout juste sorti du four de REC 103.7, chaud devant l'émission culinaire plutôt épicée présentée par Gilles. Des recettes, des tours de main, des conseils de chef, mais aussi des témoignages et des chroniques, bien sûr de la musique. Chaud devant, c'est sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Bonjour, on se retrouve toujours sur le 103.7 le mercredi de 11h à 11h30. Maintenant et sans tarder, voici venir le témoignage, mes tribulations dans les cuisines de la fonction publique. Et après on retrouvera « Que mangions-nous autrefois en Poitou ?» Ça sera la suite de la semaine dernière. En ce qui nous concerne, quand jeter devient un réflexe. Soi-disant, au CHU, on valorise nos déchets. On ne sait pas comment ni combien l'entreprise communique peu à ce sujet. Par contre, quand elle le fait, c'est à grand renfort de greenwashing. C'est dans l'air du temps. Cette tendance de jouer les écolos à deux balles, ça donne un petit coup de jeune, ça fait souffler un peu d'air frais dans les cerveaux trop pragmatiques des conseillers privés hors de prix qui squattent les ministères. Parlons déchets alimentaires. Sans vouloir jouer les anciens combattants, dans les années 80, les cuistots des cantines des collèges publics triaient déjà. Exemple, les déchets strictement alimentaires dans une poubelle inox quotidiennement renouvelée et destinée à un élevage porcin local. Je me suis perdu. Donc il triait donc les anciens. Voilà, je voulais pas jouer les anciens combattants, ça voulait. Donc dessiner un élevage porcin local. Excusez-moi, comme dirait notre Ségolène nationale, c'était du gagnant-gagnant. Si en plus vous valorisiez les déjections porcines, c'était tout bénef. Du circuit court aux petits oignons pour les petits gorées. Gérer les volumes des productions froides journalières en restauration traditionnelle comme en collectivité, on n'est pas une mince affaire. Tous les jours, c'est sur le bio, remets ton ouvrage. C'est une attention de tous les instants. Cuisiner, c'est prévoir, mais avec l'habitude, c'est gérable. En la matière, il y a deux écoles. La première, tu produis au plus juste. Donc tu produis au plus juste et tu jettes peu, en fait. En acceptant de refabriquer pendant le service selon les besoins et donc tu jettes peu. La deuxième, produire un maximum pour ne pas être emmerdé pendant le service, mais tu jettes énormément. Parce que espérance de vie, par exemple, de carottes râpées, ou d'une salade tomate-basilic, ou bien encore d'une salade de pâtes, après 48 heures, tu dois jeter sans état d'âme. À part moi, ça ne choquait personne. Si la composition est assaisonnée, c'est poubelle, on est d'accord. Par contre, des carottes râpées et des tomates nature, n'importe quoi. Les premières pourront améliorer avantageusement un fond de sauce, les deuxièmes pour un sauté, un jarret de veau par exemple, ou tout simplement bonifier une sauce tomate en conserve. Et là, vraiment, il y a du taf. Je me trompe ou la cuisine, c'est l'art d'accommoder les restes? Les adeptes de « je me fais pas chier » et de « je m'en fous, c'est pas mon argent » vont balancer l'objet du délit, la surproduction donc, dans les poubelles à l'abri des regards indiscrets. Et surtout en cachette du responsable de service. Après tout, je les comprends, il n'y a pas de quoi être fier. Et puis un jour, j'ai vu arriver les carottes et les céréales raves râpées. Le chou blanc et le chou rouge émincés en poche plastique. Quand tu ouvres, c'est magnifique, on ne retrouve pas une bonne odeur de légumes fraîchement coupés, mais un parfum subtil de renfermé et de moisi. Et ça, c'est pas fantastique. Ensuite vint le tour des salades composées prêtes à manger. Notre irresponsable de service nous a servi cela de cette façon. Comme quoi, ça nous ferait gagner énormément de temps, que les fameuses boîtes carrées et les poches nous dépanneraient et nous rendraient de fiers services. Pendant le coup de bourre de 12h30 à 13h30. Mais me servir de ces boîtes ne m'a jamais rendu fier.
Si vous pensez par Neuville, de par le chemin du roi, du petit matin jusqu'au soir, quand ça fera votre affaire, dirigez l'automobile vers ce magnifique endroit, la groupe vous y attend. de l'écouter vendre ses salades. Y en a pas un dans le comté qui a des beaux cocos comme moi. Et puis mon maïs, bien sûr, c'est le délice plein de pupus.
Oh oui, on en a des légumes.
Des carottes, du brocoli, oui, des betteraves puis des radis.
Oh oui, on en a du blé d'Inde.
Des patates puis des tomates, oui, on en a des roues.
De près, des belles pommes et puis des fraises, des bonnes mûres et des framboises. Et ces soins sont pas vendus, ils jettent rien bien entendu. Au matin sur les tablettes, confiture, tarte et galette.
Oh oui, on en a des légumes.
Des carottes, du brocoli, oui, des betteraves et des radis.
Oh oui, on en a du blé d'Inde.
Des patates et des tomates, oui, on en a des roues des mâts.
Toujours souriant. Si tu l'as, si tu le plies, tu le mettras en boutique. Et puis tu le consoles dans le clos, en fredonnant ses bons mots.
J'aime autant qu'agresse la terre que me laisser du quoi faire.
Oh oui, on en a des légumes.
Des carottes, du brocoli, oh, des betteraves et des radis.
Oh oui, on en a du blé d'Inde.
Des patates et des tomates, oui, on en a des rouges et bas.
Avec son groupe carotté, il adore s'en faire swinguer des soirées bien arrosées. À tous les gens rencontrés, le même discours il aura. Pour qui a ses chemins difficiles, tu penses, tu arrêtes trop.
Oh oui, on en a des légumes.
Des carottes, du brocoli, oui, des betteraves, des radis.
Oh oui, on en a du blé d'Inde.
Des patates, puis des tomates, oui, on en a des roues, des bas.
Oh oui, on en a des légumes.
Des carottes, du brocoli, oui, des betteraves, des radis.
Oh oui, on en a du blé d'Inde.
L'émission culinaire sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Retrouvons maintenant ma chronique « Que mangeons-nous autrefois ?» en Poitou sur le 103.7 FM. Et dans l'émission « Chaud devant », fin du chapitre « Une cuisine de pauvres » que vous pouvez aussi retrouver dans mes podcasts sur radiorec.fr. Je cite « Trop de saleté bouffée, trop de famine, trop de faim au ventre et dans les années fastes, trop de nourriture bourrative et indigeste, trop de mojettes, trop de choux, trop de fèves et trop de ragoûts. » Dixit Michel Ragon, l'accent de ma mère chez Albin Michel. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, que mangeons-nous autrefois en Poitou ? On va parler aujourd'hui de la hantise de la faim. Si la cuisinière a le souci de l'économie, elle a aussi peur de manquer. On retrouve dans la mémoire des paysans la peur des famines. Il s'agit donc de savoir conserver les réserves dans lesquelles on peut puiser en cas de besoin. Pour les légumes, entre les deux guerres, on fait des bocaux, mais on conserve aussi dans le sable. C'est ainsi que l'on garde carottes, navets, oignons. On fait aussi sécher des fruits dans le four à pain. C'est le cas des prunes mêlées que l'on range sur des claies en osier. Les poires, sucre vert ou vert d'air, sont aplaties d'un coup de battoir à linge puis séchées. On conserve aussi les fruits en les enveloppant dans du papier journal. Il faut penser aux mauvais jours. Se nourrir au quotidien, c'est une prouesse chaque jour renouvelée. Un effort pour marquer le dimanche. Le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Le travail est un peu oublié, on prend les beaux vêtements, ceux qui sont dans l'armoire de la chambre qu'on n'ouvre que ce jour-là, et on va à la messe. C'est un acte religieux, mais aussi un événement social. Après l'office, tous les habitants de la commune se retrouvent autour de l'église et dans les cafés. Les langues vont bon train, les nouvelles circulent, et pour marquer la fête, à table, on fait un effort. Le schéma du repas reste le même. Soupe, viande et légumes, fromage. Mais on mange autre chose. La ménagère en profite souvent pour acheter de la viande de boucherie, c'est-à-dire de chez le boucher. C'est donc du bœuf. Le veau et le mouton sont réservés aux très grandes occasions. Mais on reste modeste. Un morceau à bouillir fera très bien l'affaire. On fait donc un pot-au-feu, d'autant qu'on utilise ainsi les légumes du jardin, et du même coup, on a une excellente soupe. Un excellent bouillon, faut dire. À défaut de bœuf, c'est une poule qui passe au pot. On la mange chaude, accompagnée d'une mayonnaise aux fines herbes. Qui parle de diététique ici ? Personne. Parfois, la cuisinière fait aussi un dessert. Au lait très simple, et bien sûr avec ce qu'on a sous la main. Des œufs et du bon lait. Le dimanche, le laitier est pressé. Il contrôle rarement les matières grasses. La fermière en profite pour prélever en cachette quelques louchers de lait sur le dessus du seau, là où la crème s'est rassemblée. Elle confectionne alors des œufs au lait qu'elle fait cuire tout doucement au four, au bain-marie sur des papiers journal pliés ou bien. C'est une bouillie blanche parfumée à la fleur d'oranger ou simplement avec un petit goût de rimée. La crème a pris au fond de la, quand la crème a pris au fond de la casserole. C'est un petit goût de rimée. Vous voyez, on ne fait pas de folie. Et le dimanche, on reste encore très modeste. Peut-être même se prive-t-on encore. J'ai toujours, maintenant un témoignage, j'ai toujours entendu mon grand-père maternel aspirer à un gigot de mouton qui n'apparut jamais sur notre table. Il disait « Ah, au prochain Noël, on mangera un gigot de mouton ». Mais Noël passait, qui apportait dans les casseroles l'habituel poulet de la basse-cour familiale. Puis il disait « Pour Pâques, c'est sûr, on mangera un gigot de mouton ». Et Pâques passait avec ses œufs de Pâques, ses brioches pacaudes, son civet de lapin, des clapiers familiaux. Et il reprenait, sans se lasser, son antienne. À la Saint-Jean, on se paye un beau gigot de mouton. Mais à la Saint-Jean, on mangeait une fricassée d'anguille que mon grand-père avait pêchée clandestinement au fagot. Et tous les ans, il répétait son aspiration au gigot, ce gigot, qui atteignait au mythe et dont, sans doute, même il n'avait plus vraiment envie. Toujours tiré du même bouquin, on va dire. Ce même bouquin qu'on retrouvera certainement dans la suite « Que mangeons-nous autrefois en Poitou ?» Alors tout à l'heure, c'était l'agropunk avec le groupe Carotté. Et c'est maintenant le coq et la pendule, évidemment, de notre grand Nougaro à tous.
Dans une ferme du Poitou, un coq émet une pendule. Tous les goûts sont dans la nature, d'ailleurs ce coq avait bon goût, car la pendule était fort belle, et son tic-tac si doux, que le temps ne pensait surtout qu'à passer son temps auprès d'elle. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, de l'aube jusqu'au crépuscule, et même la nuit comme un hibou. L'amour le rendant coctambule, des cocoricots plein le cou, le coq rêvait à sa pendule du Poitou, du Poitou. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule, ça faisait des conciliabules chez les cocottes en courroux. Qu'est-ce que c'est que ce coq, ce cocktail, ce drôle d'oiseau, ce vieux coucou, qui nous méprise et qui ne nous donne jamais un petit coup dans l'aile. Dans une ferme du Poitou, un coq aimait une pendule. Ah mesdames, vous parlez d'un Jules, le voilà qui chante à genoux. Oh ma pendule, je t'adore, ah laisse-moi te faire la cour. Tu es ma poule aux heures d'or, mon amour, mon amour. Une ferme du Poitou, un coq met une pendule. Il est temps de venir à bout de cette fable ridicule, de cette traite à testicules qui chante l'aurore à minuit. Il avance ou bien je recule, se disait notre horlogerie qui trottinait sur son cadran du bout de ses talons aiguilles. En écoutant son Don Juan, lui seriner sa séguedille pour imaginer son trépas. Point n'est besoin d'être devin, la pendule sonne l'heure du repas. Coq au vin, coq au vin, dans une ferme du Poitou, cocorico. Un coq émet une pendule.
Et maintenant, si on veut manger des fruits de saison, vous pourrez retrouver en mars des fruits tels que l'ananas, l'avocat, la banane, le citron, le kiwi, l'orange, la poire, la pomme. Et les légumes, me direz-vous ? Eh bien, les légumes de saison, on retrouvera donc l'ail, l'artichaut, le brocoli, la carotte, le chou-fleur, le chou paumé, l'endive, le fenouil, la mâche, l'oignon, le poireau et le radis. Avec les pissenlits qui font leur apparition dans les jardins, c'est fantastique, on va pouvoir bientôt se faire une petite salade de pissenlits. Ah, moi j'adore ça, c'est quelque chose. Il y en a qui la mangent avec des œufs, figurez-vous. À ce moment-là, on faisait donc une tombée de, on va dire, on mettait du beurre dans la poêle, on faisait tomber le pissenlit, et après on cassait des œufs dessus, on rajoutait aussi du lard fumé ou du lard maigre, et ça faisait une très très bonne omelette. Et donc maintenant, il est question d'une recette. La recette d'aujourd'hui, c'est le coq au vin. Le coq au vin, c'est pas cher et intéressant à plus d'un titre. Un vrai plat de saison. Donc il vous faut 1,5 kg à 2 kg de coq prédécoupé en morceaux, de 50 g environ. 300 g de champignons de Paris. 2 oignons. 2 gousses d'ail. 150 g de lardons fumés. 3 carottes. 1 quart de litre de bouillon de poule ou de volaille. 1 demi-litre de vin rouge. Une cuillerée à soupe d'huile de tournesol, une cuillerée à soupe de graisse de canard, du sel, du poivre du moulin, 5 baies de genièvre, une cuillerée à café de cumin en poudre, du thym et du laurier pour réaliser votre bouquet garni. De la fécule de pommes de terre en quantité suffisante, ça c'est pour la liaison. La veille, mettre le coq en marinade, en rajoutant tous les ingrédients dans cette dernière, sauf évidemment la matière grasse, les champignons, les lardons et la fécule, qui sera utilisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin de cuisson pour réaliser la liaison. Le lendemain, bien égoutter les morceaux de viande et les faire revenir dans la grande cocotte de votre autocuiseur, avec la matière grasse pour une légère coloration. Débarrasser la viande, ensuite, à la place, faire fricasser toute la garniture. Les carottes en gros bâtonnets, les oignons émincés, l'ail, les champignons coupés en 4 ou en 6 selon grosseur, les lardons. Vous assaisonnez donc salé peu au début, comme toutes les cuissons longues. Il faut toujours saler très peu au début. Et après, on ressale à la fin. Ça me paraît un peu logique et un peu normal. De toute façon, n'oubliez pas de rectifier l'assaisonnement à la fin, ça je vous l'ai déjà dit. Remettre le coq dans la cocotte et mouiller avec le jus de la marinade. Mettre sous pression à feu vif. Quand ça fait pchit, baissez le feu au minimum. Laissez mijoter pendant 1h15. Bon, maintenant, le coq est presque cuit. Vous, Vous enlevez la soupape, vous laissez échapper la vapeur, évidemment. Faut jamais ouvrir une cocotte minute sans avoir laissé échapper la vapeur. Ça paraît tellement évident comme ça, mais c'est d'arriver à d'autres. Moi, je peux vous le dire. Et donc, vous allez faire bouillir votre jus et votre coque si le jus de cuisson n'est pas assez réduit. Ça, il faut le faire réduire. Parce qu'en faisant réduire, vous allez concentrer les parfums et les goûts. Puis lier avec une cuillère à soupe de fécule liée dans un petit bol avec un peu d'eau froide. Verser dans la préparation sans cesser de remuer jusqu'à une parfaite ébullition. Et rectifier l'assaisonnement si besoin. Accompagner ce plat d'une poêlée de légumes de saison ou d'un féculent.
L'émission culinaire sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Eh bien, si je vous dis que c'était le grand bateau, juste à l'instant, avec les porte-manteaux. Voilà, c'est le porte-manteau, c'est le nom du groupe. C'était un groupe parisien dans les années 80. Eh oui, ça date, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme moi, ça date un peu. Et donc, je voulais vous parler maintenant d'une chose sur laquelle je suis tombé. Je suis tombé donc, peut-être avez-vous déjà croisé ces matricules au détour d'une étiquette, d'un étiquetage sur un produit. Le E120 et le E904. Le premier, le E120, est un colorant extrait de parasites broyés, des cochenilles. Il est aussi connu sous le nom de rouge carmin. Le second, donc le E904, est un additif d'origine animale et plus précisément d'excréments d'insectes. Ô joie incommensurable, il entre dans la composition des glaces industrielles. Elle est pas belle la vie, hein, quand on veut manger des... Alors il y en a intérêt quand même à lire la liste des ingrédients, hein. C'est primordial, hein. Il faut y aller vraiment, hein. Il faut pas hésiter. Faut pas être timide à ce niveau-là, vous voyez. Donc la semaine prochaine, on retrouvera entre autres, eh bien, que mangeons-nous autrefois en Poitou. Et je vous laisse, on en a terminé avec une cuisine de pauvres. C'était le gros titre de cette rubrique de la semaine dernière et d'aujourd'hui. Et puis pour terminer en musique, on va donc se mettre Daran. Daran et les chaises. Il y a des chaises pour s'asseoir. Pourquoi pas en profiter sur le 103.7 FM. Il est venu pour moi le temps de rendre l'antenne à qui de droit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission en direct le mercredi de 11h à 11h30. Et je vous rappelle que le samedi, la rediffusion a lieu de 12h à 12h30. Salut !
C'est 103.7, chaud devant l'émission culinaire plutôt épicée présentée par Gilles. Des recettes, des tours de main, des conseils de chef, mais aussi des témoignages et des chroniques, bien sûr de la musique. Chaud devant, c'est sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.